Un quart des recherches Internet lui sont consacrées. Il occupe 30% de la bande passante et 28 000 internautes par seconde dans le monde. Je parle bien du porno, objet d'une consommation massive, qui pourrait laisser penser à une banalisation de celui-là. C'est en tout cas ce qu'un discours assez récurrent laisse entendre, ce discours sur la pornographie. Alors certes, on observe beaucoup d'allers-retours entre le porno et l'industrie du divertissement, même dans l'évolution des normes de beauté imposées aux femmes, etc. Mais force est de constater que le porno reste un sujet tabou, marqué du stigmate social associé à la sexualité. Donc le porno, ce sera notre sujet de discussion aujourd'hui avec nos invités. Donc d'une part, l'association Synapse, qui est une association toulousaine spécialisée dans l'éducation aux médias, et le collectif, une personne membre du collectif La Grande Horizontale, qui est un collectif de création pornographique, de documentaires et de médias mixtes, qui inclut des travailleuses, travailleurs du sexe et des alliés. Et hier soir, au café L'Astronef, dans le quartier de Saouzelon à Toulouse, comme une fois par mois, il y avait un apéro décryptage sur un thème du numérique. Et donc hier, ces deux collectifs ont animé un apéro décryptage visant à mieux comprendre les représentations portées par le porno mainstream et à réfléchir, à laisser à penser à notre rapport au porno et aussi éventuellement à valoriser des pornos alternatifs qui existent déjà présents ou à venir. Déjà, bonjour à vous et merci d'être avec nous pour ce magazine.
Salut.
Salut.
Est-ce que peut-être, pour commencer, vous pourriez... avant toute chose... Je pense que ça serait chouette qu'on définisse la pornographie, puisqu'on va parler que de ça pendant une heure. Savoir ce que c'est, savoir ce que ce n'est pas, et aussi nous parler peut-être de ce que c'est pour vous.
Tu vas ?
Bah oui.
Ouais. alors déjà, il faut savoir que la pornographie, c'est un terme qui n'est pas défini dans la loi. Les textes législatifs ne définissent absolument pas ce qu'est le porno. Donc notamment pour classer des œuvres ou des films en pornographie, il n'y a pas de définition.
Ouais. Ce qui ne les empêche pas de légiférer dessus. C'est ça un peu le paradoxe.
Oui, c'est ça. Il peut y avoir des jugements rendus et du coup il y a des jurisprudences, etc. Mais en tout cas, dans la loi, la pornographie n'est pas définie. La définition en soi, elle est. Il y a autant de gens qui font de la pornographie qui pourraient donner de définition. Moi, j'aime bien une définition un petit peu large, qui est celle qui consiste à dire que la pornographie est une représentation sexuelle explicite. Voilà. Souvent, il y a cette espèce d'opposition. Ou de différenciation entre la pornographie et l'érotisme, qui en soi n'a pas non plus... l'érotisme n'est pas non plus tellement plus défini que la pornographie. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc la pornographie, c'est un peu... c'est les autres, c'est ce qui est... C'est... L'érotisme, ce serait un petit peu le genre idéal de la pornographie. C'est la représentation sexuelle, mais qui serait jolie, esthétisée, douce, féminine...
Sensuelle,
suggérée, intello, en fait. Et la pornographie serait le volet trash, problématique, laid... Et déviant en fait de l'érotisme, et du coup j'ai l'impression qu'on se cache aussi souvent derrière ce truc de... Moi, une fois, on m'a dit: non mais toi, tu fais pas de la pornographie, tu fais plutôt de l'érotisme. Et je suis là, mais non, pas du tout, parce qu'en fait ce que t'as entendu, c'est une scène de fist fucking en fait. Mais à partir du moment où la personne avait un ressenti plutôt doux, esthétique dans la façon dont il a reçu l'œuvre, et ben il s'est dit c'est de l'érotisme.
De ce que je comprends, du coup, c'est très subjectif cette division entre érotisme et pornographie, et que ça se joue beaucoup par rapport à aussi un stigmate, une morale. Exactement. Associée à la sexualité. Après, il y a peut-être des critères un peu plus objectifs sur le degré de... ce qu'on entend par explicite, c'est vrai que dans les représentations, On peut observer, on peut savoir ce qui est montré ou ce qui n'est pas. Enfin, il y a vraiment ça. Mais, et après, dans le sonore aussi, c'est compliqué parce qu'en effet, ça peut être ultra explicite. Mais bon, tant qu'on est aussi dans une société où il y a beaucoup d'images et...
Bon. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a... les gens vont placer le curseur érotisme, pornographie à des endroits très différents selon les personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc avec la génitalité. Si on ne voit pas de génitalité frontale, alors ce serait plutôt de l'érotisme. Et s'il y a une génitalité frontale, alors ce serait plutôt de la pornographie. Mais tout ça reste hyper individuel selon les personnes. Tout ça n'est pas défini. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire dans ma pratique que... Au contraire, il faudrait se débarrasser de l'érotisme et en tout cas de la charge qu'il a pour ne pas justement laisser la pornographie tomber dans la poubelle dans laquelle on veut la faire tomber et de dire que la pornographie, c'est exactement ce qu'on en fait et qu'on peut aussi choisir d'en faire quelque chose de pas problématique, quoi.
On va revenir aussi là-dessus pour comprendre un petit peu la démarche. C'est quoi le message que toi tu portes, c'est quoi aussi les postures en fait qu'on a envie de mettre en avant quand on parle de pornographie. Peut-être est-ce que Julien tu voulais intervenir sur toi, donner ta définition ou parler de toi, la manière dont ça résonne en toi la pornographie.
Je sais pas, j'ai pas vraiment de réfléchi à une définition autour de la pornographie. Ou à ma définition autour de la pornographie, moi je suis un consommateur de porno mainstream du coup. C'est vrai que grâce au collectif La Grande Horizontale, elles m'ont ouverte à tout un pan d'un porno alternatif qui est hyper intéressant et qui permet de questionner la pornographie mainstream du coup, celle qui est consommée de manière massive du coup et du coup de la relativiser, et du coup c'est un peu ça qui a mené un peu notre démarche, quoi, l'idée de interroger ce porno mainstream, comment il est produit, comment il est fait, qu'est-ce qu'il représente du coup, ou qu'est-ce qu'il essaye de représenter dans nos pratiques, dans une sexualité ou dans nos fantasmes du coup, et puis essayer de d'ouvrir un peu plus le sujet, quoi.
Ouais, parce que l'apéro décryptage hier était dédié pas seulement au porno, mais plus précisément au porno mainstream, celui qu'on va trouver sur internet, sur les tubes, c'est-à-dire tous ces sites Pornhub, YouPorn et plein d'autres que vous connaissez sûrement, que je connais pas, et qui sont le reflet de manière indéniable d'une société sexiste et raciste. C'était aussi un peu l'objet de votre décryptage, c'était de proposer une lecture collective. Des scénarios, des rôles qui sont mis en place dans cette industrie du porno. On en parlait un petit peu en début, en évacuant une dimension moralisante du porno, qui par exemple ne va pas confondre porno et pédocriminalité, qui sont des choses complètement différentes, que ce soit... mais qui reste le reflet, Peut-être est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, on pourrait s'appuyer sur ce qui s'est passé hier à l'apéro décryptage, puisque vous proposez quand même une grille de lecture de ces rapports de genre, peut-être de ces catégorisations aussi raciales qui sont à l'œuvre dans ce porno, de cette réification en fait des différentes... catégorie sociale. Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus ?
Ouais, effectivement, tu as très bien résumé la chose, l'angle d'attaque du décryptage qu'on a monté hier, l'idée était de s'appuyer un petit peu sur ce que moi, j'ai pris les vidéos les plus vues, en fait. J'ai pris trois tubes, les vidéos les plus vues, et j'ai un petit peu regardé qu'est-ce que c'était ces vidéos les plus vues. Évidemment, ça répond à tous ces tout ce que tu as énuméré, des rapports de pouvoir très identifiés, des tags racistes, des corps extrêmement normés, c'est que des vidéos hétérosexuelles, des corps valides, etc. Enfin voilà, il y a tous ces clichés-là qui traversent les vidéos les plus vues, sachant qu'aussi, il y a tout un tas de... Sur les tubes, on peut trouver aussi des choses extrêmement différentes, mais en tout cas, ce qui est proposé au premier abord, c'est ça. Et l'idée était de sortir de l'idée communément visibilisée et partagée que le porno est un problème en soi et que le porno est responsable du racisme, du sexisme et des violences sexuelles. Et l'idée était de renverser un petit peu ce regard-là en recontextualisant en fait la pornographie et son contexte de production, dans le sens où c'est une production culturelle au même titre que n'importe quel James Bond ou n'importe quel morceau de chanson française, et que la pornographie est traversée, comme toutes les productions culturelles, par toutes ces choses qui de toute façon traversent la société, dans la mesure où on ne vivrait pas dans une société sexiste, le porno ne serait pas sexiste. Par contre, il y aurait du porno. Société pas sexiste, ça ne veut pas dire une société sans porno. Il y aurait de la représentation sexuelle. Elle ne serait pas sexiste si ça n'existait pas. Donc l'idée, c'était aussi un petit peu de replacer pour sortir un peu des paniques morales qui rendent responsable la pornographie des grands mots de la jeunesse et des violences sexuelles qui existent tout à fait en dehors du porno.
Mais du coup, pour... prendre le parallèle, on vit dans une société sexiste, donc par exemple la production cinématographique et musicale est sexiste, mais du coup ça nous empêche pas, enfin moi en tout cas ça m'empêche pas sur le cinéma sexiste par exemple et dans lequel il n'y a pas de meuf, quand il y a un personnage féminin, c'est le personnage féminin, moi j'arrive plus à regarder ces films-là, tu vois. Et du coup, comment on fait ? Parce que du coup, j'ai écouté quelques émissions aussi en lien avec le porno, avec et on a eu une discussion aussi où c'est vrai que pour moi, c'est un peu c'est pas mal emmêlé en fait la manière dont on peut dire ça. Comment est-ce qu'on peut proposer ouvrir cet espace de discussion sur le porno ? Mais tout en l'occurrence avoir une posture de refuser la manière dont ça prend forme dans le porno. Enfin je sais pas, en plus c'est d'autant plus particulier qu'en fait l'industrie du porno son objectif c'est d'exciter les consommateurs et consommatrices. Et justement, on sait que les rapports à l'interdit et les rapports au tabou vont nous exciter. On sait aussi que on peut être féministe et être excité par des contenus qui ne le sont pas du tout. Et qu'il y a aussi plein de tabous à tomber justement sur la manière dont on vit nos propres fantasmes, nos propres projections. Mais pour autant... Dans ce cadre-là où en fait du coup, enfin comment est-ce qu'on allie la condamnation du sexisme en fait au titre de toutes les productions sexistes aussi et le fait de dire ouais mais en même temps faut pas, enfin tu vois.
Ouais, je vois. Il y a plein de choses du coup dans cette question, dans ta question. Et en fait, alors déjà comment faire? Il existe du porno différent, peut-être on en parlera tout à l'heure. Et on n'est pas obligé de délaisser les tubes si à un moment donné ça correspond à un besoin qu'on a. Et en fait, ce que tu dis de comment on fait quand on est féministe pour être excité sur des rapports de pouvoir pareils, etc. Et en fait, ça c'est OK. Dans la mesure où il s'agit d'un fantasme et pas de quelque chose qu'on aimerait voir se réaliser. C'est la question du fantasme. Virginie Despentes, il y a 20 ans, elle a déjà écrit là-dessus en disant que la pornographie vient taper dans l'angle mort de la conscience, c'est sa formulation. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça vient taper dans des endroits qui sont construits par ailleurs. les petites filles de ma génération qui ont été bercées par Sicile l'impératrice, qui se fait sexuellement agresser 20 fois dans le film, qui dit non, non, mais finalement on l'embrasse et elle kiffe. Ça imprègne nos sexualités et nos constructions des fantasmes, qui fait que dans le porno, bah, c'est ça qu'on va aller chercher, ou en tout cas c'est ça qu'ils nous proposent, et du coup ça fonctionne.
Ouais, mais ça fonctionne aussi dans le cinéma, dans l'imaginaire en fait. Et par exemple dans le cas du cinéma, parce qu'il n'y a pas cette volonté de déconstruire ce tabou sexuel, je ne vais pas me gêner pour dire j'en peux plus de ces films de merde, arrêtez de nous montrer ça, même si peut-être de manière différente que le porno, mais ça vient aussi taper dans un quelque part où en fait ça nous plaît aussi, quoi. Enfin, ouais. Où ça nous plaît, ou tu vois.
Et après, il y a c'est ok d'avoir tous ces fantasmes-là, etc. Sur la question de comment faire, moi j'ai l'impression que si on essaye d'éradiquer en fait. D'éradiquer ces fantasmes qui nous semblent problématiques. Et qui nous semble alimenter en fait une domination sexiste, etc. C'est peine perdue, parce qu'en fait les récepteurs dans nos têtes ils existent, donc il va falloir qu'il y ait des trucs qui aillent taper dedans, quoi. Mais l'idée, moi je me dis comment en fait rentrer dans ces imageries là et les tordre de l'intérieur et en faire un jeu en fait, et en faire une performance et se le réapproprier mais c'est un peu ce que fait le BDSM aussi, de se réapproprier des codes de domination, des codes de, avec plein de guillemets, de violence ou de, et se les réapproprier dans un espace de consentement absolu, dans un espace de jeu, dans un espace de mise en scène et de théâtralisation de ce moment là quoi. Et pour moi, à aucun moment, le BDSM ne créerait de la violence sexuelle. Au contraire, c'est des espaces de réappropriation où on va tordre ces trucs-là de l'intérieur et on en fait des jeux. Et du coup, ils perdent leur dimension de danger, un truc un peu comme ça, tu vois.
Ben, du coup, ça nous renvoie vachement à un truc d'éducation. Peut-être le BDSM, ça, pour moi, c'est un rapport vachement... Ouais, éduquer à la sexualité. Enfin, je sais pas si c'est éduquer, mais en tout cas, je sais qu'il y a, il y a des communautés qui se transmettent aussi des manières et des apprentissages, en fait. Voilà, des apprentissages autour de la sexualité. Peut-être pour revenir un petit peu à votre apéro décryptage, pour comprendre un petit peu en quoi ça consistait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, comment vous avez pensé cette discussion, comment vous l'avez amené sous le tapis, j'ai envie de dire.
Ouais, alors, on a eu une première approche où on a regardé deux extraits de courts-métrages pornographiques qu'on a été chercher sur ces fameux tubes-là, et on a essayé de comprendre un peu, du coup, à travers une analyse assez rapide, les conditions de production de ces films, et puis ce que ça racontait, quoi. Et du coup, on a organisé une discussion autour de ça, et puis on a eu un deuxième temps avec tout le travail de Pampan qu'elle a fait sur les tubes, donc sur les tags par exemple, qu'est-ce qui ressortait du coup, qui étaient les tags les plus répandus, quoi, les plus utilisés, donc ces mots-clés du coup de recherche. Sur les pages d'accueil, ce qu'on retrouvait du coup sur les vidéos les plus vues à tel instant et tout ça, et puis on a essayé de comprendre un peu justement comment c'était foutu. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était ce côté mainstream, ce qui est consommé de manière massive, hein, c'est un peu toujours notre entrée du coup sur notre démarche à Synapse. Et avec l'idée que parlons déjà de ça, parlons déjà de comment c'est foutu, qu'est-ce qu'on regarde, et c'est quoi un peu l'envers du décor de tout ça, pour éventuellement derrière pouvoir parler déjà de nous, nos propres pratiques, qu'est-ce que ça engendre sur nous. Donc on n'a pas été jusque là dans l'apéro décryptage, parce que en fait c'est un tel champ en fait qui est tellement inexploré, en tout cas dans des débats publics comme ça, dans des moments comme ça, que du coup on pendant une heure et demie on a déjà parlé de ça comme ça.
Et on pourrait faire une petite pause musicale, allez.
Faisons.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années, et de juger c'est facile. surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye. On te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Pauvre femme, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Midi 32 sur Canal Sud 92.2 en compagnie de nos deux camarades Julien et Pampan pour parler de la pornographie suite à leur apéro décryptage à l'Astronef à Rangueil hier. Aujourd'hui, on a un petit peu évoqué les chiffres du porno dans l'introduction. Et en définissant le porno, on voit qu'en fait, en réalité, dans l'absolu, ça peut être très large. Ça peut être de la BD, ça pourrait être, par exemple, regarder une personne faire un spectacle pornographique dans une salle de cinéma, enfin comme à Pigalle ou quoi, c'est du porno aussi au final. Il peut y avoir beaucoup de sortes de porno, mais aujourd'hui, le porno dans les tubes, c'est-à-dire des vidéos quand même relativement courtes, classées par catégorie, etc., ça a pris une forme hégémonique dans la pornographie. Donc j'aimerais comprendre un petit peu, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire de nos pratiques associées à la pornographie, cette évolution vers cette pornographie-là qui, au final, à l'échelle de l'humanité, est vraiment très, très récente, quoi.
Ouais, je peux commencer. Les tubes ont 15 ans, quoi. C'est à peine. C'est vraiment 2007-2008, hein, les tubes. Donc, c'est récent. Et en fait, le principe du tube, c'est de capter, de capter, en fait, les usages des consommateurs, mais aussi de capter les usages des producteurs. C'est-à-dire que n'importe quel film qui est produit de manière tout à fait indépendante et pas du tout à destination d'un tube, va à un moment donné se retrouver de manière tronquée, hachée, découpée sur un tube. C'est comme si c'était une espèce d'aimant ou d'aspirateur qui capterait, en fait, qui fait que sur les tubes, enfin, les tubes regroupent 90 à 95% des usages pornographiques, mais une partie des images qui se trouvent là-dedans sont visibles ailleurs aussi, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement difficile pour les personnes qui veulent faire retirer des vidéos dans lesquelles elles apparaissent, de les faire retirer parce qu'en fait, elles reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai perdu ta question, mais...
Non, mais de savoir un petit peu... Il y a un rapport particulier quand même de, d'avoir cette sexualité, de se masturber devant un écran. Ça semble évident pour tout le monde parce qu'on baigne là-dedans, mais en fait, c'est pas... Moi, je me dis, c'est peut-être pas évident en soi, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça produit? C'est aussi vachement une pratique individuelle qui, j'imagine, marque un petit peu un rapport d'intimité et peut-être de tabou aussi par rapport au fait d'en parler ou pas. Je me demande, en fait, ouais, est-ce que vous avez discuté de quand vous parlez de porno mainstream et des écrans, de ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça... vous évoque?
Non, on n'en a pas discuté. Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment pour moi l'étape 2 après ce décryptage. Et là, on n'a pas eu le temps de passer cette étape 2. D'ailleurs, on se posait la question parce qu'il y a eu une conférence juste avant nous d'une sexologue, du coup, qui est venue parler un peu de sexualité, justement, et de pornographie, du coup, de consommation. Apparemment, elle est praticienne auprès d'étudiants, beaucoup, du coup. Donc, elle en parle beaucoup avec des étudiants. Et ça aurait été intéressant, après coup, à réfléchir, de la voir après cette conférence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déconstruit un peu, justement, comment c'est foutu, ces tubes, qu'est-ce qui est produit, et du coup, qu'est-ce qu'on regarde, du coup, finalement, quels sont les imaginaires qui sont un peu véhiculés sur ces tubes, ben voilà, ben, comment on se sent et comment, du coup, on pratique la chose. Mais on ne l'a pas fait.
Souvent, là, tu parlais des productions. Le porno est souvent attaqué par des enquêtes journalistiques qui vont montrer, en fait, que, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, hein, les conditions de production de ces films
peuvent être problématiques.
Sont super problématiques, qu'il y a des problèmes d'exploitation des travailleuses, qu'elles sont pas, qu'il y a des problèmes d'agression sexuelle aussi au sein de ces films. C'est quelque chose dont vous avez discuté?
On l'a évoqué à la fin, rapidement. C'est un peu arrivé un peu en conclusion du décryptage, où j'ai parce que j'avais envie quand même d'aborder un peu les conditions de travail, et du coup, bah, j'ai glissé ça à la fin. Et en fait, oui, il y a pas mal d'affaires qui sont sorties. Il y a l'enquête de Robin D'Angelo. Il y a pas mal de visibilisation des problèmes qu'il y a dans l'industrie du porno. Avec des personnes où on outrepasse le consentement, ou des rapports pas protégés, ou du forcing sur certaines pratiques, etc. Et des conditions de travail hors de tout cadre, en fait. Mais ce qu'il faut penser, c'est que s'il y a ces problèmes-là, de cette ampleur-là, c'est parce que le système le permet, en fait. Il n'y a aucun cadre juridique qui encadre la pornographie et qui encadre la production de contenu pornographique. Il n'y a aucun système qui protège les performeuses et les performeurs. Donc en fait, c'est très facile pour un réalisateur ou un producteur de faire pression, en fait, sur des pratiques, de faire pression sur des personnes. C'est le principe de quand t'as le pouvoir, tu fais quelque chose, tu l'utilises à ton profit. Donc les TDS du porno demandent depuis des années, en fait, un cadre légal pour encadrer leur profession, pour qu'elles aient des droits, des protections, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits auprès des productions et qu'elles puissent dire non à des choses qu'elles ne veulent pas faire. Et ça, c'est, ça, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, l'analyse facile et courante, ce serait de dire que le porno vraiment produit tout un tas de problèmes. Le porno ne produit intrinsèquement en lui-même, en soi, pas de problème, mais le système dans lequel il est produit permet qu'il y ait ces abus-là. Et en fait, à un moment donné, il faudrait écouter les personnes qui demandent à ce qu'il y ait un cadre légal autour de ça pour être protégées, quoi.
Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une visibilité qui est, j'ai l'impression, mais pas suffisante, mais plus grande peut-être, des travailleuses, travailleurs du sexe en ce moment. Est-ce que ça, ça va avoir un impact sur les luttes du travail? C'est un peu la question.
Ben ouais, j'ai l'impression qu'il y a une visibilisation un tout petit peu qui commence peut-être de manière un peu folklorique ou anecdotique sur les médias mainstream pour l'instant. Les médias de gauche plus engagés montrent un peu plus ça, en fait. Et puis moi, étant dans ce milieu-là, on va dire, je suis dans les bulles de filtre qui fait que moi, je baigne dans cette information-là en permanence. Donc, je me rends pas compte de ce que... des personnes qui ne sont pas proches de ce milieu peuvent voir. Mais ce qui est il y a aussi un truc qui est très particulier au travail du sexe de manière générale, c'est qu'il y a un tel stigmate en fait qui pèse sur les personnes qui ont cette profession, un stigmate social ou enfin ça n'importe quelle personne qui a montré son visage dans un film porno va le porter toute sa vie et va être envoyé à ça en permanence et va subir de la violence et du harcèlement. Et y a aussi plein de performeuses qui disent bah, en fait, devenir mère quand on a joué dans du porno, c'est compliqué parce qu'on est toujours exposé au risque qu'on nous retire nos gosses, etc. Donc il y a un énorme stigmate sur le fait de faire ça, mais même si ça a duré que un an ou deux dans sa vie, Ovidie, elle a fait 3 ans de porno, c'est toujours à ça qu'on la renvoie, quoi. Donc il y a un tel stigmate dans le fait de montrer son visage, de parler de ça, le stigmate de salope en fait, hein, pour parler clairement, et le stigmate administratif, etc., qui va avec, que en fait, se visibiliser pour lutter, c'est hyper compliqué. Dans d'autres professions, c'est beaucoup plus facile d'avoir son nom sur son visage sur une image avec son nom écrit en dessous et de dire voilà c'est quoi nos revendications. Quand on est TDS, bah ça c'est pas si simple parce que derrière ce qu'on subit c'est encore plus de violence et de stigmates. Et du coup je trouve qu'il y a ça aussi de particulier qui est à prendre en compte, c'est que lutter pour des droits quand on est TDS c'est aussi très compliqué à cause de ça. Essayer de conserver un anonymat, savoir ce que ça veut dire de s'exposer, comment on construit un discours. Enfin, tout ça, ça a plus d'importance et il y a beaucoup plus d'enjeux, en fait.
Ouais. Ce qui explique aussi la raison pour laquelle il y a un enjeu super fort de déconstruire ce stigmate-là. C'est pas lutter contre la morale chrétienne pour lutter contre la morale chrétienne, encore que ça pourrait être... ça pourrait être cool, mais aussi pour permettre aux travailleuses, travailleurs de... pas juste de vivre une vie normale avec notamment des conditions de travail décentes. Avant qu'on revienne un peu sur, de manière plus générale sur ce sujet-là, j'aimerais qu'on revienne, on fait un petit peu des allers-retours entre le concret et le plus général, mais on parlait des tubes hein, qui étaient l'objet un petit peu de l'apéro décryptage hier. Vous avez comparé notamment des vidéos de 2010 et des vidéos plus récentes. Déjà, pourquoi ça? Et est-ce qu'il y a eu des évolutions? Qu'est-ce qu'on observe en fait dans ce qu'a connu l'industrie du porno mainstream depuis un peu plus de 10 ans?
Alors, en fait, on l'a découvert vraiment pendant l'apéro, pendant qu'on décryptait cette différence ces deux années de production vraiment différentes. Nous, ce qui nous intéressait dans les deux vidéos qu'on a choisies, c'était les situations surtout qui étaient présentées. Donc, il y en avait un, c'était deux collègues de travail, et puis il y en a un qui va annoncer à l'autre qu'elle va être virée.
C'est pas deux collègues, c'est un patron et sa secrétaire.
Oui,
Secretary Fuck.
C'est vrai que dans le titre, c'était ça, mais j'ai pas l'impression dans le film, c'était ça. Mais t'as raison. Du coup, dans le titre, c'était Secretary Fuck Her Boss.
Ouais.
Et la deuxième, c'était. La situation, c'était une jeune femme qui voulait acheter une voiture, et du coup, qui avait pas le budget pour l'acheter, et du coup, qui avait un besoin, du coup, et. Toujours un rapport de domination, quoi.
Après, la secrétaire, elle n'a pas forcément de besoin, là, pour le coup.
Si, parce qu'elle allait se faire virer, quand même. Du coup.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais.
Parce qu'elle avait fait des notes de frais trop importantes. Voilà. Et du coup, dans les deux, ben ouais, donc dans celle qui était de 2010, du coup, vraiment un côté très amateur. Du coup, un décor qui correspond pas du tout à une réalité, à ce qu'on pourrait imaginer d'un bureau, d'un open space ou ce genre de choses. On savait pas trop où on était. Du coup, la manière dont ils étaient habillés et surtout elle avec un décolleté énorme, bon, c'est pas réaliste par rapport, à ce qu'on pourrait imaginer. L'impro entre eux était très très mal foutu, du coup très voilà, ça marchait pas, du coup c'était un peu mal joué. Et alors que la production d'après, donc c'était une production Naughty America, donc qui est un label, il me semble, et du coup ils ont des petites productions, donc là c'était I Have a Wife. Et il décline ce truc-là, I Have a Wife, en petits courts-métrages, plein de petits courts-métrages. Et le titre de la vidéo, c'est toujours le titre de l'actrice. Donc là, c'était Anissa Kate, l'actrice. Et là, du coup, on sentait quelque chose de plus carré dans la production, autant au niveau du jeu que de la mise en scène, le placement des caméras, etc. Et alors, moi, c'est plutôt quelque chose que j'ai observé du coup depuis que je regarde du porno, justement, une professionnalisation vraiment du coup de surtout du côté des Américains, du coup de ces productions où on sent que c'est plus carré au niveau des scénarios, que les acteurs et les actrices, elles ont un peu plus de formation, ou en tout cas elles sont un peu plus acteurs et actrices au sens où elles savent apprendre un dialogue, jouer une scène, jouer différents personnages, différentes attitudes, etc. Et du coup tout est un peu plus léché, quoi, en fait. Après, la base des scénarios reste la même, en tout cas dans les deux cas. Ça reste un rapport de domination. Dans l'image, c'est vraiment le corps de la femme, du coup, qui est filmé, voire qui est découpé, du coup, et pas du tout le corps de l'homme, et qu'on reste vraiment sur les mêmes clichés et les mêmes stéréotypes, du coup, autour de ça. Ça change pas, par contre.
Ces tubes-là, ils sont quand même dominés par une industrie qui est états-unienne, en fait. Ça aussi, c'est une particularité. J'ai l'impression que. Qu'une grande partie, mais peut-être, enfin, ouais, regarde par exemple YouTube, c'est les capitaux sont américains, mais on va regarder. Alors après, on peut regarder beaucoup de vidéos en anglais aussi, mais
ouais, mais pas que.
Proportionnellement, il va y avoir plus d'acteurs, enfin de productions américaines que pour le reste des productions culturelles qui sont déjà bien pénétrées, si je peux me permettre, par l'industrie américaine, quoi.
Pas que dans le travail qu'a fait Pampan sur les plateformes, mais peut-être je te laisserai en parler. Il y a la découverte de ce que on appelle le phénomène de longue traîne. Moi, je te laisse expliquer parce que tu.
Ouais, parce que la question c'était les productions sont surtout américaines. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Dans les plus vues et ce qui est proposé, il y a pas mal de trucs qui viennent d'Europe de l'Est aussi. Mais le phénomène de longue traîne que moi j'ai découvert du coup en préparant ce décryptage, c'est un peu le modèle économique d'Amazon. Ça consiste à dire que sur les tubes, il y a, on va dire, 10 tags, un nombre arbitraire, un petit nombre de tags en tout cas, qui va concentrer. Une grosse part du chiffre d'affaires. mais qu'il y a des milliers d'autres tags derrière avec des choses de niche plutôt, ou des films de pays qui produisent presque pas de porno d'habitude, ou voilà. Il y en a une multitude qui cette masse, cette énorme masse-là aussi correspond à un volume de chiffre d'affaires qui est en fait important pour le tube et qui est nécessaire. Et c'est un peu comme ça que fonctionne Amazon. En gros, il y a 4 produits qui représentent 20% du chiffre d'affaires et 80% du reste, c'est des milliers et des milliers d'autres produits. Donc c'est cet effet longue traîne en fait. Je sais pas si c'est très clairement expliqué,
ouais,
mais
ouais, si.
Et qui fait que en fait sur les tubes, il y a cette pensée. Et effectivement, dans la fin, quand on regarde les pages d'accueil, on a l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui sont proposées. Mais en fait, sur les tubes, on trouve exactement tout ce qu'on veut. On veut trouver une femme rousse à lunettes. On peut trouver exactement tout ce qu'on veut. On suffit de demander les ingrédients qu'on veut et on va trouver, quoi.
Et c'est vrai que l'industrie cinématographique, de manière globale américaine, est très forte pour arriver à trouver les vidéos, les thèmes qui font qu'ils vont réussir à produire, enfin à diffuser de manière massive. Donc on peut imaginer que le porno ne sort pas de cette logique-là, et que par exemple dans ce qu'on a découvert dans les tags du coup qui sont mis en avant, c'est tout ces histoires de fausseste du coup, donc
ouais. L'intrafamilial qu'on appelle le fausseste, beau-père, belle-mère, demi-frère, voilà.
Et que probablement, bah, du coup, une grande partie des vidéos produites sur ces thèmes-là viennent effectivement de ces productions américaines, les Brothers, les Naughty America, les je sais pas quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que du coup elles sont plus visibles et plus consommées, mais que il y a vraiment aussi plein d'autres choses. Et ce que tu disais sur le côté court métrage, moi j'ai pas cette sensation là, j'ai l'impression que c'est effectivement ça qui est plus visible, mais que du coup il y a encore une production de long métrage qui continue à exister. Du coup il y a tout un phénomène de parodie par exemple, où chaque fois qu'un blockbuster va sortir aux États-Unis, justement ces productions là vont produire une parodie du coup de pornographique de ce blockbuster là, et du coup là on est vraiment sur du scénario long métrage. Donc moi j'ai la sensation que les tubes ont finalement enrichi du coup ont permis, un peu comme YouTube, du coup d'avoir des propositions, une richesse de propositions, alors qui sont discutables, souvent problématiques, avec par exemple les productions amateurs. Il y a plein de choses à discuter, mais en tout cas du coup ça enrichit une offre de manière assez folle du coup.
Il nous reste assez peu de temps puisque je voulais mais bon après on peut continuer. Je me demandais peut-être qu'on pourrait parler un petit peu du porno alternatif. Ouais. Pourquoi, comment, attends, j'ai pas préparé trop de questions, mais du coup, notamment dans la grande horizontale, il y a la valorisation de productions qui sont différentes. J'aimerais un petit peu comprendre, c'est qui les personnes qui produisent du porno alternatif. J'imagine qu'il y a plein de formes, plein de genres différents. Comment on en arrive à faire du porno alternatif et où est-ce qu'on peut en consommer aussi.
Et du coup, comme tu disais, il y a multitude de supports, il y a beaucoup de films, mais il y a aussi de la littérature et du son par exemple. Donc il y a plusieurs supports, mais déjà moi je trouve ce qui caractérise ces pornos là, c'est la façon dont le tournage est construit et les conditions de travail, où il y a la plupart du temps énormément de discussions en fait collectives autour de qu'est-ce qui est consenti ou pas par les personnes, etc. Il y a je sais qu'à la grande horizontale on a un questionnaire qui est tout le temps en évolution, que les gens peuvent remplir. Il y a énormément de discussions, de négociations, de choses comme ça, et souvent il y a des heures et des heures de préparation et de discussion et de penser le tournage pour qu'il soit confortable et safe pour tout le monde, etc. Et ça prend un temps proportionnellement tellement infiniment plus grand que le tournage en lui-même, finalement. Et ça, j'ai l'impression que ça, c'est quand même un commun avec toutes ces productions-là, de prendre le temps de faire les choses correctement pour que tout le monde soit bien. C'est pour ça aussi que ça demande de l'argent, et que c'est pour ça que pour avoir ce porno qui est produit dans ces conditions-là, bah, ça implique de payer pour son porno. Et après, à l'intérieur de ça, en termes de style ou d'esthétique, on peut trouver plein de choses très différentes. Il y a une production qui s'appelle Four Chambers, qui propose, donc là, pareil, hein, c'est payant, il y a un site, c'est je crois 8 euros par mois, et on a accès à toutes les productions de Four Chambers, et où là, on est dans des propositions extrêmement graphiques, esthétisantes, travailler en termes de lumière, de couleur, etc. Et là, il y a vraiment cette marque de fabrique chez eux. Je prends un peu comme ça vient dans ce que... Mais j'aime bien les productions suisses, là, qui s'appellent Oil Production. Ou pareil, c'est un peu reconnaissable, les films de Oil Production. C'est très chouette à voir aussi. Il y a moyen de trouver des choses. Il faut connaître, il faut fouiller, il faut chercher. Le porno sonore, il y en a, et il y en a de plein de types. Ça va de la simple lecture d'un texte cochon à de l'accompagnement à la masturbation, comme peut faire Vox, par exemple, où il y a quelqu'un qui va te chuchoter dans l'oreille ce que tu vas te faire, etc. Ou ça peut être des productions plus... je sais pas, plus artistique, plus expérimental aussi, voilà.
Je propose que pour illustrer, on écoute une petite pièce sonore.
Ah oui.
Et qu'on se retrouve après, du coup.
Ouais.
Porte encore un tampon. Je peux passer au toilette vite fait, voir où j'en suis, tu vois, mais j'en ai mis un au cas où.
Bah, comme tu veux, quand t'as envie.
On commence à faire des trucs et après je verrai.
D'accord. De la méthode.
Ça va pas trop vite?
Non, ça va.
Ok.
Je me mets en dessous. Mais,
tu veux pas l'enlever?
Bah voilà. Vas-y. Ça va, je peux pas de la gueule.
Je veux juste te...
Très joli. Moi évidemment j'ai pris mon boxeur de butch. Si je dois faire une pause, c'est maintenant.
Vas-y.
Ok. Tu veux que je t'embrasse?
Je sais plus. Oh.
Non, c'est bon, ça va, cette disque, j'ai quasiment rien. J'aime vraiment ton goût en plus.
C'est vrai.
Ouais. Je te fais pas mal, non ?
Non.
C'est plutôt excitant.
Oh. Tu veux que j'aille
de l'autre côté ? Non, mais t'as vu, je me suis cassé la gueule hyper élégamment.
Pour serrer un peu plus mon
cœur. Je comprends pas dans quel angle il est, dans toi.
Par contre, je vais faire ma timorée, mais j'ai besoin de...
Je veux pas que je te regarde.
Non.
Bouge pas.
Peut-être mets des coussins sous ton ventre, je pense que tu seras mieux en fait. T'es sûr?
Ouais.
Ma main, elle te gêne, je suppose. T'es pas dans un bon angle.
Non.
Ok.
Ah, oh, en fait, elle est vachement recourbée.
Bah oui. Tu seras bien avec l'autre bite. C'est mieux comme ça.
C'est mieux de ouf, faut que je te vois. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, j'ai plus de batterie.
Je te fais pas mal
quand même. Non, ça m'excite à fond.
Ok.
Viens, petite pause.
Deux, ça va ou t'en veux plus?
Ah non, deux, s'il faut pas moins.
Ok, attends.
Oh. Oh. Aïe!
Oh, merde! Pourtant, j'essaie vraiment de tirer à la base des cheveux, tu vois.
En fait, t'as tiré trop d'un côté, du coup, ma tête, elle a fait.
Bouge un tout petit peu, et si je bouge en même temps, c'est bon, en fait.
Dis donc, c'est mon trou de balle, ça, hein?
Pardon.
Tu vas voir ma fesse?
Oh putain.
T'as envie de chialer, hein?
Non. Oh putain, je suis désolée, j'ai foutu du sang sur ton lit, voilà.
Ah, salut.
Tu veux basculer un peu comme ça? C'est comme ça, ça suffit.
Et on vient d'écouter Garder la peau et les pépins de Tympan Cucu. Tu veux nous en parler un petit peu, nous raconter?
Oui, c'est mon projet de porno sonore qui s'appelle comme ça et que je présente en installation, mais qu'on peut aussi écouter en ligne. Et du coup, ça, c'est le dernier porno sonore que j'ai sorti. Du coup, il est sorti début mai, là, il y a un petit mois. Voilà, et du coup le propos, c'était un peu de donner à entendre tous les... En fait, c'est du porno zéro déchet, anti-gaspi. C'est tous les... les choses qu'en général on garde pas dans, quand on fait de la représentation sexuelle ou même quand on mobilise un imaginaire sexuel, en tout cas on garde pas tous ces moments là de le bras coincé, voilà, c'est les chutes, c'est exactement ça, quand on se casse la gueule ou quand on se fait mal ou même les accidents de type mettre du sang partout dans les draps parce qu'il y a les règles qui arrivent ou toutes ces choses là qui sont de l'ordre du déchet en fait. Et que j'avais envie de revaloriser parce que ça fait partie du sexe et que du coup, bah, si ça fait partie du sexe, on peut donc faire de la pornographie avec. Et aussi, dans cette liste de choses de l'ordre du déchet, il y a un truc qui est le consentement aussi, où je pense qu'à plein de moments dans ce truc-là, on entend « mais c'est pas une visibilisation lourde du consentement. Bonjour, aimerais-tu que je te mette la main sur l'épaule ?» Ou c'est juste voilà, de montrer aussi ces moments où on se demande si ça va bien et si ça va pas trop vite, et ben, les moments de communication, en fait. Donc, j'avais envie de faire du porno avec ça, puisque ça aussi, c'est du sexe. Et que finalement, les sons sexuels plus classiques, les souffles, etc., soient un petit peu plus en retrait, un petit peu plus en condiment. Et voilà, et que ce soit joli, tendre, amoureux et un peu cucu.
Ça réussit en tout cas. Peut-être, oui, on va bientôt se quitter. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler, qu'on n'a pas abordé?
Non, moi je suis très content de cet apéro de décryptage et puis de cette émission à suivre, parce que je suis content d'ouvrir ce champ, d'étudier la pornographie, comprendre ce que c'est, comment ça marche et tout ça. Et j'espère bien qu'on va pouvoir continuer du coup à l'avenir à creuser un peu ce sillon-là.
Bah ouais, moi je suis bien contente. En plus, ça fait quand même... Enfin, nous on est amis depuis quelques temps avec Julien, et ça fait quand même de l'ordre de quelques années qu'on se dit ce serait quand même bien de faire un décryptage sur la pornographie, qu'on le fait pas, et que bah là il me l'a proposé et j'ai trouvé ça trop chouette, et du coup j'étais bien contente d'être invitée sur ce décryptage. Et puis du coup, si t'as envie qu'on poursuive un petit peu le travail autour de ça, pourquoi pas.
Et comment est-ce qu'on peut retrouver, que ce soit... J'ai oublié le nom du collectif...
La Grande Horizontale. Tympan
Cucu.
Alors, le collectif La Grande Horizontale et Tympan Cucu étant le projet sonore.
Ok, voilà, c'est ça. Donc, pour les personnes, les auditrices, auditeurs qui ont envie de les retrouver, il y a, j'imagine, des réseaux pour La Grande Horizontale. Vous étiez présente, je crois, à la fête de soutien d'ACT UP il y a quelques temps.
Exactement. On était invités à la fête de soutien d'ACT UP où on a proposé deux films et deux sons. Donc on a les réseaux sociaux La Grande Horizontale, Facebook et Insta, on est pas mal dessus, donc on est joignable là-dessus, et il y a une page aussi pour Tympan Cucu qui est le projet sonore qui est à l'intérieur de ça, et voilà, donc c'est facile de nous joindre par les réseaux.
Merci. Et du coup, Synapse, vous comme êtes d'hab. Toujours comme d'hab
à l'apéro décryptage, du coup, tous les derniers mardis du mois. Donc le prochain, c'est le 28 juin. Et puis autrement, on a toujours notre site internet, du coup, associnas.org, où on peut prendre contact avec nous s'il y a des sujets qui intéressent, quoi.
Ce sera quoi le thème de...
Eh bien, ça sera un medley de un peu tous nos apéros décryptage. On va faire un petit jeu bingo et on va proposer des questions et revenir un peu sur toute la saison d'apéros décryptage et ce qu'on a pu décrypter.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir passé cette heure avec nous, et puis peut-être à bientôt.
Ouais. Merci beaucoup à toi.
Ma mère est une putain, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Il paraît que toute la rue lui est passée dessus. C'est pourquoi j'en conclus que les voisines sont cocues. Et toutes ces vieilles rombières qui font rien que nous insulter sont des langues de pute, dit ma mère. Et elle maîtrise le sujet quand elle nous bave dessus. C'est juste qu'elles sont vexées que ma mère on lui passe dessus et qu'elle on leur passe à côté. masque. Ma mère est tellement belle que les voisins font la queue pour coucher avec elle plutôt que de rentrer chez eux. Ils viennent claquer leur salaire dans les bras de ma mère pour la douceur d'une caresse et la chaleur de ses fesses. Et tous mes copains qui me traitent de fils de putain sont jaloux, c'est certain, qui sont des fils de boudin. Car même en étant payé, y aurait pas un volontaire capable de bander pour le cul de leur mère. Parce que ma mère est une catin, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Mon père lui est un enfoiré, vu qu'il s'est barré le jour où il a découvert qu'une pute pouvait être une mère. Personne sait qui c'est, mais il serait du quartier. Ce qui fait dire qu'il y a un voisin qui est le père du fils de la putain. Et les copains d'à côté commencent à flipper d'être peut-être de mes demi-frangins et des beaux-fils de putain.